présenté par Philippe Nanzer.
La fébrilité des marchés financiers n'arrange pas les affaires du BS. Pour le deuxième trimestre de cette année, la première banque suisse affiche un recul de son bénéfice net de 1 milliard. On s'attend à plusieurs milliers de licenciements à travers le monde. La Corne de l'Afrique se meurt de faim. Le Programme alimentaire mondial avait annoncé le lancement aujourd'hui d'un pont aérien pour venir en aide aux populations. Mais pour finir, le premier vol n'aura pas lieu. Il aura lieu que demain à Nairobi. Stéphanie Braquehet nous expliquera notamment que ce retard est dû à des problèmes d'autorisation douanière. Le gouvernement norvégien monte au créneau pour défendre ses services de sécurité critiqués pour la lenteur avec laquelle ils ont réagi aux attaques d'Anders Breivik, l'homme qui a massacré 76 personnes vendredi en plein centre de Oslo et dans les environs de la capitale norvégienne. Et à la fin de ce journal, Edmée Fleury nous expliquera que le temps de demain sera plus humide que celui d'aujourd'hui. Donc au programme, beaucoup de nuages, un peu de soleil et de pluie et des températures qui n'excéderont pas les 21 degrés en pleine. Bonsoir. UBS pâtit de la fébrilité des marchés financiers. Résultat, à l'issue de ce deuxième trimestre, la grande banque affiche un bénéfice net en baisse de 1 milliard de francs. Son secteur banque d'affaires a particulièrement souffert, avec un résultat réduit de moitié par rapport au premier trimestre. La gestion de fortune apparaît comme la valeur sûre de la banque, avec des rentrées d'argent frais de presque 9 milliards de francs. Mais alors que 2/3 de l'argent géré par UBS est en devise étrangère, le secteur gestion de fortune, le Wealth Management, comme on dit, est désavantagé par le franc fort. Les explications de Loïc Bent, il est analyste à la Banque Bordier.
L'effet franc-suisse a eu un impact surtout sur la masse sous gestion, c'est-à-dire les capitaux gérés, qui ont baissé de 6%. Sur le trimestre, ça fait 6% de capitaux sur la base desquels les commissions perçues sont en baisse proportionnellement. Donc en wealth management, en asset management, qui est la gestion d'actifs institutionnels, on a souffert pas mal d'une baisse de la base d'actifs.
Loïc Bent était interrogé par Esther Coco, a noté que face aux incertitudes résultant de ces chiffres moroses, UBS se prépare, selon certains observateurs, à supprimer plusieurs milliers d'emplois. Le prix de 555 médicaments va baisser dès le 1er novembre prochain, une baisse de 8% en moyenne. Et en vertu d'un nouveau système, le prix de l'ensemble des plus de 8000 produits remboursés par l'assurance de base seront adaptés au taux de change d'ici 2015. L'industrie pharmaceutique accueille ces nouvelles adaptations avec inquiétude. Elle se dit déjà secouée depuis plus d'une année par un taux de change défavorable, en particulier à l'exportation. Les émissions de CO2 ont légèrement reculé en Suisse entre 2009 et 2010. Le constat vaut aussi bien pour les combustibles que pour les carburants. C'est ce qui ressort d'une statistique publiée aujourd'hui par l'Office fédéral de l'environnement. Il n'empêche, la Suisse n'a toujours pas atteint les objectifs de réduction fixés par le protocole de Kyoto, Roger Grignard.
L'année 2010 a été relativement froide. En chiffres absolus, la consommation de fuel et de gaz pour le chauffage, les combustibles, a nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Mais l'Office fédéral a introduit un correctif climatique pour une meilleure comparaison d'une année à l'autre. Avec ce dernier, on enregistre une baisse de 12,9%, mais le but à atteindre est de 15%. Reste que c'est un bon résultat, estime l'Office, vu que la surface habitable chauffée a augmenté, preuve que les différentes mesures de réduction du CO2, rénovation bâtiments et la fameuse taxe portent leurs fruits. Du côté des carburants, on observe une hausse qui a pu être compensée par l'achat des fameux certificats étrangers. Au final, la baisse atteint 8%. Elle est due à deux facteurs. La cherté du franc, qui a repoussé plus d'un étranger à venir acheter de l'essence en Suisse, et puis les nouvelles voitures qui consomment moins. Donc, la Suisse peine à tenir ses engagements vis-à-vis du protocole de Kyoto, mais amélioration il y a tout de même. Pour l'ATE, l'Association Transport et Environnement, voilà qui illustre le très fort potentiel de réduction des émissions de CO2, surtout dans le trafic routier.
Genève confirme son ambition de devenir pionnier en matière d'énergie solaire. Le canton a lancé aujourd'hui la première phase de son plan solaire. 3 centrales photovoltaïques sont en cours d'installation sur les 3 de bâtiments scolaires. Les panneaux installés produiront la moitié de l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces écoles. Mais sur l'ensemble des besoins, ces centrales ne fourniront que 1,7% de l'énergie totale consommée par les 1300 bâtiments de l'État. Un chiffre déjà significatif pour Olivier Pli. Il est directeur du service de l'énergie du canton de Genève.
C'est la première fois qu'on passe à une logique premièrement de centrale photovoltaïque. Donc on n'est plus dans l'installation marginale pour faire joli, on est dans un concept de production. Et puis c'est la première fois qu'il y a un programme de long terme. On arrive à 1,7%. Avec la phase 2, qui est planifiée dans les 2-3 prochaines années, on pourrait arriver à 3,5-4%. Donc on voit que finalement, dans un laps de temps assez court, avec une énergie complètement renouvelable où il n'y a pas d'aléa sur sa disponibilité, on va passer de quasiment 0 à 4%. Donc je retournerai la vision en disant que jusqu'à aujourd'hui, on est passé à côté de cette énergie et que finalement, on n'a pas un problème de technologie, on n'a pas un problème de ressources. On va plutôt vers des technologies qui vont coûter de moins en moins cher et on sera un jour dans la situation où les courbes s'inverseront. Il sera plus intéressant d'investir dans ces panneaux-là plutôt que d'aller acheter sur le réseau.
Des propos recueillis par Virginie Mater. La Corne de l'Afrique, de la Somalie au Kenya, se meurt de faim. Le Programme alimentaire mondial avait annoncé le lancement aujourd'hui d'un pont aérien pour venir en aide aux populations victimes de la famine, des populations qui fuient ces zones pour affluer à Mogadiscio, la capitale somalienne, ou dans les camps réfugiés en Éthiopie et au Kenya. Mais pour finir, le premier vol n'aura lieu que demain. À Nairobi, Stéphanie Braqueret nous explique les raisons de ce retard et les difficultés auxquelles doivent faire face les ONG sur le terrain.
Le premier avion du Programme alimentaire mondial transportant des aliments ultra-nutritifs à destination des enfants mal nourris a été retardé pour des problèmes de douane au Kenya. Un porte-parole de l'organisation annonce qu'une centaine de tonnes de nourriture devraient être distribuées, 80 à Mogadiscio et 20 tonnes ailleurs dans le sud de la Somalie, mais il ne peut préciser aucun calendrier. Le terme « pont aérien » constitue un effet d'annonce certain, mais pour le moment, peu de détails ont été communiqués sur l'acheminement ou encore le nombre de vols. Pendant ce temps-là, des ONG poursuivent leurs efforts pour atteindre les populations dans les zones les plus touchées, en acheminant de l'aide par camion notamment. Peu d'organisations souhaitent communiquer en ce moment sur leurs activités. Les négociations avec les Chebabs et leur tolérance des ONG internationales se déroulent mieux dans l'ombre qu'à grand renfort de médiatisation. Stéphanie Braqueret, RFI pour la Radio Suisse Romande, Nairobi.
Le temps avertit Tripoli, elle bombardera tout site civil, industriel ou agricole en Libye qui serait utilisé à des fins militaires par les troupes loyales au numéro 1 libyen Muammar Kadhafi. Le temps a frappé récemment une cimenterie d'où les soldats pro-Kadhafi tiraient avec un orgue de Staline, un lance-roquettes multiple. Mais l'Alliance Atlantique affirme qu'avant de cibler ce type d'objectif, elle prend les plus grandes précautions de manière à éviter les pertes civiles. Le gouvernement norvégien monte au créneau pour défendre ses services de sécurité, critiqués pour leur lenteur à réagir aux attaques d'Anders Breivik, l'homme qui vendredi a tué 76 personnes dans l'explosion d'une bombe en plein centre de Oslo et dans une fusillade méthodique sur une petite île proche de la capitale norvégienne. Pour le ministre de la Justice, Knut Storberget, la police norvégienne a extrêmement bien rempli sa mission. On rejoint à Oslo Grégory Tervel.
Mérite un grand merci de la part des Norvégiens. Cette phrase du ministre de la Justice et de la Police, Knut Storberget, visait à mettre fin à la polémique sur l'efficacité des services de police. Deux points cristallisent les questions des médias. D'abord, le temps qui s'est écoulé, une heure, entre l'alerte et l'arrivée sur le lieu de la fusillade de la force d'intervention policière. La police a mis les choses au point en expliquant qu'il aurait été impossible d'arriver plus vite sur l'île d'Utøya, car elle ne dispose pas d'hélicoptères adéquats à Oslo. De la même manière, le service de renseignement et de sécurité intérieure estime n'avoir commis aucune erreur, malgré le fait qu'Anders Breivik n'a jamais été repéré pendant les 9 années de préparation de son opération. Breivik était un loup solitaire que même la Stasi de l'ex-Allemagne de l'Est n'aurait pas débusqué, a expliqué sa directrice. Pour attraper ce genre d'individu, il faudrait surveiller tout le monde, et ce n'est pas la société que nous voulons. Nous devons aujourd'hui en payer le prix, a-t-elle ajouté. Grégory Tervel, Radio Suisse Romande, Oslo.
23 membres du clan de l'ex-président Ben Ali ont comparu aujourd'hui devant un tribunal de Tunis. Ils sont prévenus de tentatives de fuite du pays en janvier dernier et de détention illégale de devises. Parmi eux figurent deux sœurs de Leïla Trabelsi, la femme de l'ex-président Ben Ali, ainsi que son neveu préféré, Imed Trabelsi, dont on dit qu'il est l'un des hommes les plus détestés de Tunisie. Joaquin Caparrós est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. L'Espagnol succède à François Cicolini, remercié après 2 matchs et 2 défaites en Super League. Andalou d'origine, Joaquín Caparrós a entraîné plusieurs équipes de la Liga espagnole comme Villarreal, Séville, Deportivo de la Coruña et depuis 2007, l'Atlético Bilbao, un club qui n'a pas renouvelé son contrat au terme de la dernière saison. Une opportunité pour Neuchâtel Xamax et son vice-président et responsable du recrutement, Andrei Rudakov. On l'écoute.
C'est un entraîneur qui a grande expérience. Surtout, moi, j'aime beaucoup le football espagnol. Les dernières années, quand même, ils ont beaucoup progressé. Ils montrent que vraiment, c'est le football spectaculaire. Et j'espère que c'est avec lui, on va progresser. Et surtout, les jeunes joueurs et les joueurs de Neuchâtel, ils vont progresser.
C'est un entraîneur qui débarque avec son staff?
Oui.
Pourquoi ce choix? Qui a choisi? Vous, monsieur Satouyev? Monsieur Tchagaïev?
C'est les dirigeants de club qui ont pris la décision. C'est Monsieur Tchagaïev, il a une connaissance, et voilà, on a pris la décision.
Est-ce que vous allez lui accorder du temps?
Mais bien sûr, c'est comme pour tout le monde.
Bon, les anciens entraîneurs ont eu que 2 matchs.
Mais avant, ils avaient 2 mois de travail.
Des propos recueillis par Alain Thévaux. À noter que Joaquín Caparrós dirigera son premier match à la tête de Neuchâtel Xamax dimanche. Ce sera pour la venue de Sion à la Maladière. Quelques mots sur les marchés financiers. Aujourd'hui, la bourse suisse a clôturé en baisse. Le Swiss Market Index a reculé de 0,45% à 5 990,18. La bourse de New York, elle, a également fini en baisse de 0,73%. L'indice Dow Jones a cédé 91,5 à 12 501,3. Et pour clore ce journal, la météo avec Edmé Fleury.
Dans une atmosphère instable, la journée de demain sera plus humide que celle d'aujourd'hui. Quelques brèves éclaircies pourront percer la grisaille par endroits en plaine, mais le ciel restera le plus souvent nuageux. Les averses intermittentes toucheront toutes les régions. Elles seront plus fréquentes en montagne, notamment dans les Préalpes, et moins marquées en vallée centrale. La limite pluie-neige se situera vers 2600 mètres d'altitude. Les températures resteront fraîches pour la saison. Il fera un minimum de 11 à 13 degrés et un maximum de 18 à 21 degrés en pleine. Météo Suisse annonce le même genre de scénario pour jeudi. Un ciel le plus souvent nuageux et des averses intermittentes plus marquées dans l'après-midi et en montagne. Les thermomètres plafonnent.